Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale aujourd'hui avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous sommes dans notre version grand invité de l'économie et le grand invité c'est vous, Jean-Michel Severino. Bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour Jean-Pierre.
Jean-Michel Severino, vous venez de publier aux éditions Odile Jacob un livre intitulé Entreprenante Afrique, qui fait le point sur l'essor de l'entreprise privée en Afrique. C'est un livre co-signé par Jérémy Ashdenberg et nous parlerons longuement de cet ouvrage dans cette émission, bien sûr. Mais tout d'abord, deux mots sur votre parcours. Vous naissez à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 1957. Est-ce que votre famille y vivait depuis longtemps et est-ce qu'il y est resté longtemps après cette date ?
Oui, absolument. Ma famille a passé à peu près 45 années de sa vie en Afrique, de l'Éthiopie au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun. Ma famille est une famille d'immigrés italiens et qui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont retrouvés finalement en Éthiopie, comme mon père, comme interprète au chemin de fer franco-éthiopien, à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, hein, dans les années 1930. Et c'est comme ça que notre chemin est arrivé en Afrique, qui a été pour nous, en fait, une terre de reconquête de la prospérité, puisque l'histoire de notre famille, c'est une histoire de migration de misère.
Et donc, vous entrez en France à quelle époque exactement ?
Eh bien, je rentre dans le début des années 70, dans le secondaire.
Après la Côte d'Ivoire.
Ah, absolument.
Alors, de retour en France, vous empruntez le chemin qui fabrique les élites françaises, école de commerce, Sciences Po, l'ENA, l'inspection des finances au ministère des Finances, des postes au ministère de la Coopération, où vous êtes étroitement associé à la dévaluation du franc CFA en 1995, puis vous passez à la Banque mondiale où vous traitez de la crise dans les Balkans. On vous retrouve aussi sur le terrain asiatique au moment de la crise financière de 1997-98. Et enfin, vous accédez à la direction générale de l'AFD, l'Agence française de développement, poste que vous occuperez pendant 10 ans jusqu'en 2010. Tout un parcours de fonctionnaire, national ou international. Mais depuis 5 ans, vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Investisseurs et Partenaires et qui soutient les PME africaines. Vous avez recours à ce qu'on appelle en anglais de l'impact investing. Alors c'est un terme barbare pour le français que je suis. Ça veut dire quoi ?
Moi j'aime bien appeler ça en français l'investissement de mission. Ça consiste à essayer, à utiliser des instruments de marché, en l'occurrence là du private equity, un capital risque, pour contribuer à résoudre des problèmes d'intérêt général. En l'occurrence, les sujets qui nous intéressent à IEP, où on ne fait que de l'Afrique subsaharienne, on n'est présent que dans cette région du monde. Ce qui est des sujets qui nous intéressent, c'est la formalisation de l'emploi, c'est la résolution de la crise énergétique, c'est l'accès aux biens essentiels, la santé, l'éducation, l'eau, le traitement des déchets, et le tout en aidant à faire émerger des start-up, des jeunes entreprises, parfois des moins jeunes, qui vont contribuer à la résolution de ces problèmes.
Alors, au cours de cette émission, on va vous interroger avec Frédéric Maury sur ce livre que vous venez d'écrire et qui est consacré à l'Afrique, mais aussi sur les questions d'actualité, plus chaudes peut-être, qui concernent ce continent que vous connaissez si bien. Jean-Michel Severino, ma première question, c'est la contradiction, le contraste qu'il y a entre les activités que vous avez eues jusqu'à il y a 5 ans, 6 ans, en tant que fonctionnaire, et puis maintenant, vous êtes en quelque sorte un homme du privé. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'à lire votre livre, on a l'impression que le secteur africain privé peut beaucoup plus, en termes de développement, que les États africains que vous présentez souvent comme n'étant en filigrane que gabegie et corruption.
Oui, non, c'est pas tout à fait ça, hein, parce que on a énormément besoin des États et on a besoin de bons États. On ne construira pas des routes avec des partenariats publics-privés. Et on n'ira pas non plus résoudre les problèmes de l'agro-pastoralisme en milieu soudanais avec des investissements de start-up. Hein. Donc on a, que ce soit dans le privé ou dans le public, on a besoin du rôle traditionnel des États, il n'y a absolument aucun doute. Maintenant, il est incontestable que la qualité de gouvernance des États est faible en Afrique. Hein. C'est pas, on enfonce une porte ouverte en disant ça.
Mais vous alliez dire, on emporte une part de responsabilité.
Oui, peut-être, parce que les phénomènes.
C'est l'ancien directeur général de l'AFD qui parle.
Oui, enfin, je ne viserai pas l'AFD du tout, franchement, mais je crois que globalement, la corruption et la mauvaise gouvernance est un phénomène pour lequel tout le monde a des complaisances, pour des raisons d'ailleurs lourdes, sinon ça ne continuerait pas autant. Donc c'est pas la corruptance dans les phénomènes de corruption, il y a des corrupteurs, il y a des corrompus et il y a des gens qui observent et tout le monde dans le système vit avec. Je dirais que s'agissant des PME africaines, elles en sont clairement les victimes, elles n'ont pas le choix de s'y plier.
Alors expliquez-nous ce titre « Entreprenante Afrique ».
Entreprenante Afrique, ça vise à décrire et à capter la révolution entrepreneuriale qui est en train de se faire sur le continent. Une des caractéristiques les plus extraordinaires du continent, et donc que je vis avec mon co-auteur Jérémy et toute l'équipe avec laquelle nous travaillons maintenant depuis 6 ans. Donc ce que nous voyons, ce que nous observons, c'est l'émergence de millions d'entrepreneurs, de créateurs de boîtes sur tout le continent, dans tous les secteurs, dans tous les pays. C'est vrai de l'Afrique anglophone, on en parle souvent mais c'est vrai aussi de l'Afrique francophone. Nous avons trouvé et nous accompagnons des merveilleux entrepreneurs au Niger, au Mali, au Burkina, pour ne citer que ces pays qui ne sont pas perçus a priori comme étant des terres d'entrepreneuriat extraordinaires. Donc oui, donc ce livre est vraiment au propos de cette révolution qui est en train d'emporter tout le continent et qui explique d'ailleurs de façon profonde pourquoi l'économie de ces pays dépourvus de matières premières et enclavés si continue finalement à prospérer malgré tout ce qu'on dit sur les ralentissements économiques ou les problèmes structurels de ce monde.
Question de Frédéric Maury pour Jeune Afrique.
Alors c'est vrai que ce livre fourmille d'exemples, de cas, de success stories, on peut le dire, d'entrepreneurs, en général de petits entrepreneurs qui ont réussi à créer des PME africaines. Je voudrais en parler d'un exemple en particulier, c'est celui de Maïda Zenabou, hein, au Niger, puisque vous parliez du Niger, qui a créé une société qui s'appelle Nigerlay, apparemment, qui est le leader, je vous ai lu, et qui est le leader des produits laitiers au Niger. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans cet exemple-là, c'est que il est le leader du lait dans une région, le Sahel, où il y a des producteurs de lait, enfin des éleveurs en tout cas, des peuples qui sont capables de produire du lait. Et pourtant, lui, il utilise du lait importé. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement ce modèle-là, par exemple, celui de Nigerlay, qui certes est un entrepreneur africain, mais qui utilise de la poudre de lait importée, donc qui en termes de développement durable, c'est quand même assez moyen. Pourquoi est-ce que c'est finalement pas très différent de ce que ferait une multinationale? Et pourquoi est-ce que cet exemple-là serait finalement plus valorisé ou valorisant qu'un autre?
Alors, c'est un sujet que je connais bien parce que par ailleurs, alors il se trouve que cette entreprise, puisque n'est pas une entreprise dans laquelle nous avons investi, hein, ça fait partie d'un des nombreux témoignages que nous avons apportés dans ce livre. Mais nous avons investi notamment dans une entreprise qui fait du lait à partir de lait local, qui s'appelle la Laiterie du Berger. C'est une entreprise qui a pris au Sénégal une part très significative du marché. Et donc nous savons, de l'intérieur, pourquoi il est extraordinairement difficile sur le continent africain de travailler avec du lait local. Nous en avons fait les frais, nous avons finalement réussi avec cette entreprise.
C'est-à-dire que vous avez perdu de l'argent?
Disons qu'il a fallu très longtemps avant que la Laiterie du Berger devienne rentable, oui. Il a fallu.
Et la raison, c'est quoi alors?
La raison, c'est que un consommateur de yaourt, même dans un pays pauvre, veut un produit stable avec les mêmes qualités tout au long de l'année. Et les éleveurs, surtout quand ils sont des éleveurs nomades, ont des produits qui sont instables, avec des quantités qui varient beaucoup. Durant l'année, et vous ne pouvez pas assurer en fait les caractéristiques qui sont recherchées par le marché spontanément comme ça à partir de cet approvisionnement. Donc il faut un énorme travail amont sur la filière lait pour arriver à obtenir que celle-ci vous livre à la fois les quantités et les qualités qui vont permettre d'être présent sur le produit. Et c'est pour ça que l'immense majorité, hein, là on ne parle pas de 50% ou 60%, c'est 90% du yaourt produit en Afrique est produit à partir de poudre de lait importée. Ce n'est d'ailleurs pas spécifique au continent africain. C'est vrai sur le marché mondial. C'est vrai par exemple des yaourts qui sont produits en Chine. Ils sont produits à partir du lait, de la poudre de lait néo-zélandaise qui est le grand fournisseur mondial de poudre de lait. Donc la poudre de lait, c'est devenu une espèce de commodité, qui est un produit standard, qui se vend, je dirais, par container, et qui permet aux producteurs de produits laitiers frais d'assurer ce type de stabilité. Alors, puisque vous évoquez ce sujet, pour nous, quand on travaille avec des entrepreneurs dans ce secteur, c'est pas notre seul investissement, le branchement sur la filière d'élevage local, c'est une priorité stratégique, et on y arrive. Hein, mais on y arrive avec au prix de beaucoup d'efforts. Et vous parliez du rôle des États, il faut aussi des politiques publiques, il faut aussi des interventions dans les filières agricoles pour aider ces transitions.
Puisqu'on évoque ce yaourt africain qui pourrait être en quelque sorte un baromètre à la fois du développement de la consommation et de la production africaine, quel est le rapport de force entre les multinationales comme Danone et puis ces producteurs africains que vous aidez à se développer?
Alors bon, ces multinationales sont encore peu présentes sur le marché des produits laitiers frais, mais c'est vrai qu'elles investissent beaucoup. Moi, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde, de la même manière que en France, il y a des très grands producteurs. Vous parliez de Danone, vous parliez de Yoplait et d'autres qui ont des parts de marché très importantes. Et il y a aussi beaucoup de producteurs petits et moyens.
Il y a une filière laitière qui est très développée en Europe, donc c'est différent. Là, on est dans un cas de figure où finalement, on a un entrepreneur africain, ce qui sans doute et peut-être sans doute mieux qu'une multinationale en effet, mais en même temps ils utilisent les mêmes méthodes et la filière laitière locale se développe pas particulièrement, donc les gens sont sans doute contents d'avoir un yaourt africain, mais en même temps en termes de développement économique, de transformation des économies, il se passe rien de particulier avec cet entrepreneur là.
Oui, alors dans le cas du Niger, effectivement, cette boîte spécifiquement utilise de la poudre de lait. Mais ses impacts sur l'économie sont bien sûr ne se résument pas à l'ancrage dans la filière locale. C'est une boîte qui a créé des dizaines d'emplois à Niamey pour servir le marché local, qui améliore le mix nutritionnel du pays, qui fait fonctionner aussi nombre de fournisseurs locaux, pas sur la filière lait, mais sur tous les autres ingrédients et sur toutes les services qui sont liés à l'entreprise. Donc cette boîte, elle a un impact très significatif, même s'il n'est pas sur la filière. Et encore une fois, ce n'est pas... il y a d'autres boîtes qui, elles aussi, tentent de s'ancrer dans cette filière d'élevage et qui, progressivement, y parviennent. Et celles-là ont bien sûr une dimension supplémentaire d'entraînement de l'économie locale.
L'une des questions que vous soulevez dans ce livre, c'est celle de l'industrialisation du continent africain. Vous n'êtes pas le seul à vous préoccuper de cette question. Écoutez ce qu'en disait récemment Alfredo Calcagno, un économiste de la CNUSET, qui était dans ce studio il y a peu, au micro de Gaël Lalex de RFI.
Il ne faut pas penser que l'industrialisation va se faire toute seule. Il faut des acteurs, il faut un État qui veuille appliquer des politiques industrielles, mais il ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il réussisse à créer cette interaction avec le secteur privé pour qu'aussi le secteur privé lui explique qu'est-ce qu'il lui faut, mais aussi l'État discipline ce secteur privé, qu'il ne devienne pas rentier des aides de l'État, mais qu'il investisse et fasse les innovations auxquelles il devrait s'engager. Un des problèmes, pas seulement de l'Afrique, mais des pays en voie de développement, c'est d'avoir une classe d'entrepreneurs nationales plus dynamique, mieux organisée, qui identifie leurs intérêts à celui du pays. Il faut miser sur les petits entrepreneurs aussi, en essayant de les organiser, d'en faire des coopératives, de leur donner des raisons pour s'organiser, d'accès à la commercialisation de leurs produits, d'accès au transfert technologique, au crédit. Et tout ça, c'est plus facile à faire en groupe que tout seul lorsqu'on est un micro-entrepreneur.
Vous en pensez quoi?
Beaucoup de bien.
De ce qu'il dit?
De ce qu'il dit, oui, bien sûr. Il est très important de développer la base entrepreneuriale des pays africains. Vous savez, le continent africain est un continent assez largement vide d'entreprises. Nous héritons d'une génération d'histoire économique où l'entreprise est faite soit de grandes entreprises nationales, publiques, certaines le sont restées, quelques-unes ont été privatisées dans les années 90-2000, d'autre part de grandes entreprises étrangères, et par ailleurs d'un vaste tissu informel, c'est d'ailleurs celui-ci auquel le précédent interview faisait davantage allusion, et de la même manière qu'on parle de classe moyenne s'agissant des revenus, il faut arriver à faire émerger un tissu entrepreneurial fait de PME nationales qui vont endogénéiser le développement économique.
Qu'est-ce que vous appelez par endogénéiser ?
Eh bien, rendre tout simplement les Africains propriétaires de leur capital, au sens général du terme.
Et vous avez la conviction que ça peut vraiment changer, transformer structurellement l'économie africaine, que il y a davantage de PME détenues par des entrepreneurs africains.
Absolument, et pas simplement l'économie, la société. Toutes les sociétés démocratiques libres sont fondées sur des classes moyennes larges, hein, et qui ont le poids politique pour contrôler l'État, l'amener à faire des politiques bénéfiques pour le pays, et qui sont centrées sur le débat. Or, une des caractéristiques de ce tissu d'entrepreneurs et de PME, c'est qu'il est à la fois issu de cette classe moyenne naissante, hein, parce que les gens sont qualifiés, on fait pas l'entrepreneuriat formel, je ne parle pas de l'informel, on ne fait pas l'entrepreneuriat formel sans compétences, c'est des gens qui ont des compétences, qui ont fait des études supérieures.
À l'étranger ou sur place ?
Les deux. Mais bien sûr, à l'étranger encore plus. Mais y compris sur le territoire national, sont souvent issus de cette classe moyenne émergente. D'autre part, ils servent les besoins de cette classe moyenne. Une des caractéristiques du processus d'industrialisation en cours en Afrique et de cette révolution entrepreneuriale, c'est qu'elle est d'abord axée sur le marché intérieur africain. Elle sert la consommation locale, et cette consommation locale, c'est la classe moyenne. Et d'autre part, ces entrepreneurs vont peut-être, pour un certain nombre d'entre eux, devenir les Bill Gates africains ou les Ali Dangote. Mais pour la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont gagné honorablement leur vie sans être des très grandes fortunes. Donc ils vont d'une certaine manière appartenir à cette classe moyenne supérieure, de même que les patrons de PME en France font partie de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure, et ils embauchent même des cadres, ils embauchent des ingénieurs, ils embauchent des techniciens, etc., et ils formalisent l'emploi. Et en fait, ce que fait ce tissu de PME qui est en train de naître, c'est qu'ils inventent le salariat, hein, le véritable salariat, ils emploient des gens, et tout ça, ça constitue un facteur formidable de création de cette classe moyenne.
Et pour les aider justement à émerger, est-ce qu'il faut une forme de protection? Et je pense notamment par exemple aux APE quand on signe les accords de partenariat économique qui finalement ouvrent les marchés, hein, et qui ont tendance à bloquer l'industrialisation de l'Afrique. Est-ce que c'est pas un vrai problème pour ces PME-là ?
Bon, alors les protections peuvent être utiles, mais il faut être très attentif parce que moi je suis toujours très, très prudent là-dessus parce que la grande caractéristique des protections, c'est qu'elles sont fraudées. Et il n'y a rien de pire que d'établir une barrière douanière pour que des importateurs fassent venir illégalement et frauduleusement des produits à bas prix. Or, nous sommes dans un continent, c'est déjà compliqué en Europe de véritablement protéger les frontières avec des administrations efficaces et compétentes. Sur le continent africain, c'est souvent une entreprise vaine, hein, et le monde réel vous contredit.
Mais comment des entreprises de ce type-là, un peu fragiles quand même, peuvent se développer quand elles ont un accès au crédit très coûteux par rapport à des entreprises européennes qui vont payer 3-4% d'intérêt face à 15% par exemple.
Mais parce qu'elles ne se battent pas sur les mêmes terrains. La plupart des biens et des services que délivrent ces entreprises africaines naissantes, c'est des biens et des services que des multinationales n'ont pas envie, ne peuvent pas produire. Et c'est comme ça qu'elles émergent. Elles occupent toutes les niches du marché. Et elles trouvent leur compétitivité également dans l'accès à des ressources que le multinational n'aura jamais. Parce que des réseaux locaux, des capacités à se fournir auprès de producteurs spécifiques. Par ailleurs, l'énorme mouvement d'investissement privé que nous avons vu en Afrique depuis par des multinationales dans la dernière décennie a aussi beaucoup profité à ce secteur de PME. Parce que ces grosses boîtes, elles cherchent des fournisseurs, elles cherchent des prestataires de services. Quand vous regardez par exemple, et puis je vais m'arrêter sur cet exemple, l'essor de la grande distribution moderne en Afrique avec des entreprises internationales, multinationales. Cette grande distribution a un objectif stratégique évident qui est de recourir de plus en plus à de la production locale, en particulier pour tout l'agroalimentaire, qui est évident parce que les circuits frais, pour ne prendre que cet exemple, sont bien plus compétitifs localement et elles vont travailler avec des PME locales. Donc c'est une grosse demande nouvelle qui est adressée à ce tissu.
Eh bien, Jean-Michel Severino, c'est la fin déjà de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons dans 3 minutes après un flash d'actualité pour continuer à parler de votre livre « Entreprenante Afrique » publié aux éditions Odile Jacob et de l'Afrique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Aujourd'hui avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons Jean-Michel Severino, président d'Investisseurs et Partenaires, qui soutient le développement des PME en Afrique. Jean-Michel Severino, vous venez de publier avec Jérémy Ashdenberg aux éditions d'Il Jacob un livre intitulé « Entreprenant Afrique » qui fait le point sur le développement du secteur privé sur le continent africain. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que vous estimiez que vous étiez en train de participer, qu'était en train de se développer sur le territoire du continent africain un tissu entrepreneurial africain. Et nous avons évoqué aussi votre parcours professionnel au début de l'émission. Mais Frédéric Maury, nous n'avons pas tout dit.
Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous étiez aussi, au-delà de ces PME, membre de nombreux conseils d'administration, dont certaines sont des multinationales, Orange ou Danone par exemple, mais il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y a une liste interminable.
Ecobank.
Ecobank.
Voilà. Et pourtant, on vous voit peu, à moins que je me trompe, avec le MEDEF. On vous voit pas forcément dans leurs événements. Est-ce que ça veut dire que vous gardez une distance quand même par rapport à ces grandes entreprises? Et pourquoi est-ce que vous êtes dans leur conseil d'administration par exemple?
Non, je suis très très impliqué d'abord dans ces... Je n'ai rien contre le MEDEF, mais il se trouve que j'ai pas de rôle officiel dans cet univers qui est tenu par les managements, et je fais partie de la gouvernance de ces sociétés, pas de leur management. C'est une grosse différence de positionnement. Et donc je suis très impliqué dans ces sociétés que j'aime bien notamment accompagner dans leur réflexion, de leur stratégie africaine, entre autres, mais pas uniquement, puisque par exemple, je préside le comité d'audit de Danone, je suis partie de son comité stratégique, on parle de bien d'autres choses que l'Afrique. Ce qui me passionne dans ces conseils d'administration de cette vie des grandes entreprises, c'est comment enrichir, je dirais, qualitativement la stratégie et inclure les dimensions sociales, environnementales dans le cœur du projet de l'entreprise. Je dois dire qu'à cet égard, Danone, par exemple, est une entreprise absolument extraordinaire.
Mais ces grandes entreprises, elles n'ont pas tendance à écraser les PME par définition?
Non, je crois qu'il y a une grande complémentarité. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que les grandes entreprises qui investissent en Afrique sont les promoteurs d'un tissu entrepreneurial et de PME autour d'elles parce qu'elles cherchent des fournisseurs, parce qu'elles cherchent des prestataires et qu'elles ne peuvent pas travailler sans cet univers. En fait, une grande entreprise ne se suffit pas elle-même. Elle fait partie d'un écosystème dont elle est complètement moteur. Alors maintenant, c'est vrai que quand ces entreprises sont perverses, elles peuvent écraser leur chaîne de fournisseurs lorsqu'elles ont un rapport de force qui est trop favorable et la nature entrepreneuriale escalée. Mais c'est pas partout le cas parfois ces grandes entreprises sont aussi en situation de dépendance vis-à-vis de fournisseurs critiques. Il y a de nombreux exemples. Alors, on les en a vécu certains avec Danone sur les questions de lait tout à l'heure, qui ont montré à quel point les vulnérabilités étaient complexes. Donc non, moi je crois que les grandes entreprises et PME sont très complémentaires. Et du reste, moi, dans mon activité professionnelle, j'utilise beaucoup cette relation avec le grand corporate, et bien au-delà de Danone et d'Orange.
Le grand corporate, ce sont les grandes entreprises.
Voilà, pour les grandes entreprises, c'est multinational, pour en faire un acteur de développement de ce tissu entrepreneurial. Leurs filiales locales, par exemple en Afrique, peuvent avoir des rôles extrêmement positifs et on travaille pas mal avec elles.
Vous appelez de vos voeux dans ce livre, à la fin du livre, en conclusion quasiment, à un Small Business Act africain. Qu'est-ce que c'est exactement? Que cherchez-vous? Que voulez-vous?
Une des raisons pour lesquelles, finalement, le tissu de PME et d'entrepreneuriat en Afrique n'arrive pas à être soutenu comme il devrait l'être, étant entendu que les gouvernements ont tous des propos extraordinairement positifs, ainsi que les bailleurs de fonds, hein, tout le bon langage est là. Mais la réalité est très différente. Donc, une des raisons, c'est que ce tissu entrepreneurial est finalement faiblement représenté. Il n'a pas accès aux décideurs politiques, il n'est pas constitué en fédération patronale puissante, il ne pèse pas véritablement dans la vie locale, même si son poids économique social réel est extraordinairement important. Et donc du coup, moi, avec Jérémy Ashdenberg, nous nous suggérons qu'il y ait des véritables processus politiques qui se mettent en place et qui permettent de voir et de débattre de l'intégralité des problèmes que ce tissu entrepreneurial rencontre. Ces problèmes, ce sont des problèmes d'accès au marché public qui leur sont insuffisamment réservés. C'est des problèmes de paiement. Vous savez, le tissu de PME, c'est le premier banquier de l'État africain, hein, à travers les arriérés de paiement que les dettes des États qu'ils ne payent pas. Donc, travailler sur les problèmes de paiement, c'est travailler sur le cadre juridique et l'environnement juridique. C'est travailler aussi sur les dispositifs spécifiques de financement, les mécanismes d'incubation, d'appui à l'émergence des entreprises. C'est vraiment très utile de pouvoir prendre ces problèmes en bloc, globalement, et pas les uns après les autres. et les processus de Small Business Act, hein, de législation favorable aux PME, que les États-Unis ont inventé, sont des mécanismes politiques puissants pour faire débattre de la globalité de ces sujets.
Donc ça consiste par exemple à réserver une part des marchés aux petites entreprises locales, c'est ça ? Ou des parts de marché public par exemple ?
Par exemple, sur cette dimension-là, absolument.
Mais on imagine mal, par exemple, qu'un État, quel qu'il soit, s'intéresse à une entreprise laitière. Ça concerne plutôt le BTP ou d'autres entreprises qui participent au processus de construction des infrastructures.
Vous savez, le continent africain va voir 450 millions d'arrivants sur le marché du travail d'ici à 2050. Au rythme de la croissance actuelle, il va se créer à peu près 200-250 millions d'emplois. Donc il manque au rendez-vous de 2050 200 millions d'emplois. Bon, voilà, je crois qu'on a le choix de rester les bras croisés en disant « Tiens, c'est une situation sociologique assez intéressante. Voyons un petit peu comment ça va se passer.
Hein. » Cynisme.
Soit assise. Voilà, non, c'est sympa. C'est benign neglect, hein, négligence. Bon, alors ce benign neglect, cette négligence, elle peut être de ce côté-ci de la Méditerranée. Bon, au fond, si on a quelques dizaines de millions de migrants supplémentaires, au fond, quel est le sujet, quelle est l'importance, hein, ça, pas un problème pour personne. Ou ça peut être aussi du côté des gouvernements africains, parce que, vous savez, les 150 millions de Nigériens qu'on attend en fin de siècle, ou 180...
Donc, et puis, au Niger, hein.
Au Niger. Et puis la soixantaine de millions qu'on aura dans une trentaine d'années au Niger, ils vont pas rester non plus au Niger. Ils vont être où ? En Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Sénégal, et jusqu'en Afrique du Sud. Donc on a une bombe démographique absolument invraisemblable qui est en train de se constituer. Et la bataille de l'emploi est la première des batailles de la stabilisation. Non seulement de la prospérité des Africains, ce qui est la moindre des choses, mais aussi la stabilité politique, à la fois pour nous en Europe et pour le continent africain. Et cette stabilisation politique par l'emploi, elle va passer par une bataille sur le front de la PME des nouvelles boîtes, parce que c'est pas la fonction publique, c'est pas non plus les grandes boîtes qui vont créer ces 250 millions d'emplois. D'emplois en plus formels. Formel, il faut que ce soit des emplois formels, pas des emplois de bonabona dans la rue, qui sont des emplois de... Il faut le dire, avec force, il y a beaucoup de complaisance vis-à-vis du secteur informel. Mais c'est des emplois de misère. On a besoin de bons emplois, d'emplois décents, avec des conditions de travail acceptables pour les gens. Bon. Et pour faire ça, il faut développer ce tissu, quel qu'il soit. Et que vous produisiez du lait, des carreaux en ciment, des services informatiques, ou des chaises et des tables, ou des ordinateurs, c'est la même chose, d'une certaine manière. C'est la même chose.
Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'organisation de ces entreprises en Afrique. Pourtant, la semaine dernière, le MEDEF a réuni à Paris une vingtaine de dirigeants des patronats africains. Donc, il y a bien un patronat africain. L'objectif de cette réunion, c'était d'évoquer le sommet franco-africain de Bamako, qui doit avoir lieu dans quelques semaines. L'objectif de ces patrons, en janvier précisément, l'objectif de ces patrons, c'est de peser sur ce sommet et d'en faire surtout un sommet économique. Ils veulent que, plutôt que parler politique, on parle économie. Écoutez ce qu'en dit Patrice Fonladossa du MEDEF International. Patrice Fonladossa, qui est aussi PDG de Veolia Afrique, au micro d'Abla Jounaïdi du service éco de RFI.
Ça va être des messages très pragmatiques sur des propositions que nous allons soumettre pour obtenir de la part des chefs d'État et chefs de gouvernement un vrai soutien. En fait, l'objectif, c'est d'essayer d'aligner, dans la mesure du possible, bien évidemment, une position qui est une position entrepreneuriale avec un support politique. Voilà, donc c'est très simple. Maintenant, il nous reste quand même beaucoup de travail sur les thématiques à présenter aux chefs d'État et aux chefs de gouvernement pour obtenir leur appui et leur soutien.
Alors, vous parlez de priorités. Quelles sont-elles ?
Alors, elles sont sur l'agroalimentaire, par exemple. Nous en avons défini 5 ou 6 aujourd'hui. Nous allons travailler d'ailleurs sur ces thèmes. C'est bien évidemment la révolution digitale. C'est bien évidemment aussi la question de l'emploi et l'employabilité d'un certain nombre de jeunes et donc de la formation. Voilà, à titre d'exemple, je dirais non limitatif pour l'instant, nous avons donc 5 thèmes qui ont déjà été retenus.
Le sommet France-Afrique, il doit avoir un objectif purement économique ?
Oh bah purement économique, non. Hein. À l'évidence, il y a d'énormes problèmes politiques en Afrique. Il faut aussi en parler, les problèmes de sécurité. Mais les composantes économiques sont fondamentales aussi pour la sécurité. On le disait à l'instant. Et au passage, cette journée que vous évoquiez, ces deux journées de la semaine dernière, à Africa 2016, c'était vraiment super. Moi, je les ai lus... Alors, effectivement, il y avait un objectif officiel qui était de contribuer à ce sommet. Moi, je les ai lus aussi sous un autre angle. Il y avait 2800 personnes pendant deux jours à Paris, que des boîtes françaises. française, africaine, pas européenne aussi. Et pour ma part, c'était la première fois dans toute ma vie professionnelle consacrée à ce continent que je voyais une telle dynamique de rencontre. C'était aussi juste une grande foire au business. Et ça, c'est quand même un changement extraordinaire lorsqu'on se remémore l'Afrique de l'ajustement structurel, puis tiens, la dévaluation du franc CFA, des crises de la dette, etc. On est vraiment dans un autre monde. Et ce que ça m'inspirait, moi, cette rencontre, j'ai présidé une table ronde qui était consacrée au sujet du financement, hein, ce que ça m'inspirait, c'était que je me retrouvais dans l'atmosphère des salons d'affaires asiatiques, internationaux des années 90 auxquels j'ai participé. Alors ça, c'était complètement bluffant et je trouve que c'est un signe que une page de l'histoire est en train de se tourner.
Dans ces sommets comme Africa 2016, il y a souvent cette notion aujourd'hui de changer évidemment le regard qu'ont les Européens sur l'Afrique, mais il y a aussi cette notion de co-développement, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait développer à la fois l'économie française et l'économie africaine, les entreprises les unes avec les autres. Est-ce que c'est pas un peu naïf quand même de croire ça? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans des guerres économiques, les entreprises françaises voulant des parts de marché en Afrique et les entreprises africaines, elles, voulant sans doute acquérir de la technologie ou des connaissances? Vous croyez à cette notion de co-développement entre les deux zones?
Absolument. J'ai de partenariats économiques. On peut mettre différents termes sur à peu près la même chose. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le mode de croissance africain est, et je pense, va être très durablement extrêmement différent de celui que nous avons vu en Extrême-Orient et que j'ai bien connu de l'intérieur.
De par vos fonctions, la Banque mondiale.
Voilà, absolument, absolument. L'Afrique, en fait, il y a plusieurs modèles économiques en Afrique. Si on met de côté les États en faillite, il y en a deux principaux et peut-être un troisième qui est en train d'émerger. Il y a le modèle des pays à matières premières, pétrole, mines, etc., qui suit un cycle très typique et qui va continuer à avoir l'énorme problème de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire la bulle et puis la capacité à créer un système productif compétitif. Il y a des raisons très profondes à ça. Il y a une littérature économique gigantesque sur ce sujet. Et les Africains dérogent aucunement à une règle qui est universelle sur ces pays. Et puis, il y a tous les pays à marché intérieur qui sont surtout caractérisés par une démographie absolument extraordinaire. Et ce sont ces pays qui sont le lieu de cette révolution entrepreneuriale que j'évoquais, de cette lutte constitution d'une classe moyenne productive. Et ces gens, ils travaillent vraiment ces pays travaillent pour leur marché intérieur d'abord. D'abord, parce que ce sont des pays enclavés, souvent. Ils n'ont pas le choix de faire autre chose. Et ça, c'est un modèle économique qui est parfois un peu plus lent en termes de taux de croissance que les modèles d'export, mais qui se caractérise par des besoins importants d'importation et de balance des paiements qui sont favorables aussi aux partenaires extérieurs et qui créent des cycles positifs entre les pays investisseurs et les pays investis. Donc ça c'est une dynamique qui est extraordinairement positive pour tout le monde. Et je vais vous citer quelques chiffres très précis là-dessus.
Pas trop.
Mais nous avons remis à Pierre Moscovici, il y a maintenant 2 ans, avec Lionel Zinsou, Makim El Karaoui, Hubert Védrine, ça, un rapport sur...
À l'époque où Pierre Moscovici était ministre de l'économie.
Absolument. Et donc, à sa demande, un rapport sur ce fameux partenariat économique franco-africain. Et nous avons raconté que, pendant la décennie qui s'était écoulée, les exportations africaines avaient cru de 16% par an en moyenne. C'est le taux de croissance le plus élevé de toute la planète. Alors partant de très bas, bien sûr, partant de très bas. Pendant ce temps-là, la France avait divisé sa part de marché par 2 sur le continent africain. On est passé d'environ 11%, environ 4,5% de la part de marché africain. Et malgré ça, nos exportations ont été multipliées par 2 en volume et on a créé 100 000 emplois sur le territoire français. Alors moi, quand je lis dans la presse qu'on trouve finalement pas si mal que le crédit d'impôt, le CICE en France ait créé entre 50 000 et 100 000 emplois en 2 ans, je dis finalement, l'Afrique, elle a fait mieux que le CICE.
Elle a été plus bénéfique à l'industrie française.
Bah oui, aux exportations. Et quand on fait un petit tableur, alors ça vaut ce que ça vaut, on se dit voilà comment ça va se passer dans les 15 prochaines années. On imagine qu'on perd plus de parts de marché, on imagine que les importations africaines vont continuer comme maintenant, etc. Enfin, les exercices qui sont un peu théoriques. Il y a un potentiel entre 500 000 et 800 000 créations d'emplois sur le sol national, pendant que les Africains, eux, créer ces fameuses PME, ces fameuses start-up, ces fameuses boîtes africaines qui, bien sûr, apportent des équipements, mais qui, bien sûr, revendent, sont prospères. Donc, nous sommes vraiment dans une convergence d'intérêts. Et je vous le dis avec la plus grande simplicité et avec le risque d'être traité d'un naïf incontournable, etc. Moi, je crois à l'échange international, je crois aux bénéfices partagés de la croissance. Et je dis tout simplement qu'avec une masse démographique de 2 milliards de personnes qui est en train de se constituer sur le continent, sur nos yeux, d'ici à 2050, entre 3 et 4 milliards en fin de siècle d'habitants, là, et un PIB, un PIB qui va, dans les années 2050, du continent africain, progressivement converger et s'approcher du PIB de l'Union européenne par le double mérite de la croissance démographique et de la croissance du PIB par habitant, eh bien, le continent africain va être le plus grand sauveur d'emploi de l'Europe et de la France.
Alors, Jean-Michel Severino, je rappelle à nos auditeurs que c'est Ecodici Eco d'ailleurs, vous êtes le grand invité de l'économie. Nous parlons de votre livre, et puis autour de votre livre Entreprenante Afrique, chez Odile Jacob, avec Jérémy Ashdenberg. Je vais vous citer un chiffre, Jean-Michel Severino, puisque vous en avez asséné quelques-uns, donc à mon tour de vous en donner un, il date d'hier. C'est le chiffre de croissance du continent africain tel qu'il a été élaboré par la Banque mondiale pour l'année 2016. Il y a quelques mois, la Banque mondiale nous disait la croissance africaine sera 3%, et puis maintenant on en est à 1,6%. Alors c'est très très différent de l'optimisme que vous manifestez, parce que 1,6% de croissance avec le taux de croissance démographique, c'est très très peu.
Oui, mais alors ce chiffre est à la fois parfaitement exact et n'a aucun sens, puisque c'est le taux de moyen de croissance de tout le continent africain, dans lequel vous avez là-dedans la Libye, la Somalie, et en particulier, plus sérieusement, tous les grands pays pétroliers qui sont en train de voir leur croissance passer au-dessous de la ligne de flottaison, depuis l'Algérie jusque au Nigeria, en passant par l'Angola. En fait, nous avons aujourd'hui plusieurs économies africaines. Tout à l'heure, j'évoquais cette division entre les grands pays pétroliers qui, eux, ont des chiffres de croissance négatifs. Hein. C'est pas du 1,5%, c'est du moins 1, 2, 3, etc. depuis 2 ans, donc ils sont en récession. Une récession qui va se prolonger pendant l'année 2017 aussi. Et vous avez une Afrique qui, elle, bénéficie de manière extrêmement importante de la baisse des cours des matières premières, parce qu'ils sont importateurs nets de pétrole, qui sont tous ces pays non producteurs de matières premières, qui constituent une masse démographique extrêmement importante. Et moi, il y a une chose que je vous propose à tous ceux qui s'intéressent aux chiffres, c'est de regarder la courbe de croissance des pays pauvres, des fameux PMA, du continent africain depuis 20 ans. Cette courbe de croissance, elle est constamment positive. Elle est positive à des niveaux élevés et elle continue et elle s'accélère. Et parmi les stars de la croissance aujourd'hui, on continue à avoir mondial. On continue à avoir des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Kenya, comme l'Ouganda, etc. Et l'Éthiopie.
Donc vous parlez de cette croissance forte dans les pays qui ne sont pas soumis en fait au cours du pétrole ou au cours des minerais, mais est-ce que le sujet c'est pas surtout la qualité de la croissance, parce que c'est-à-dire qu'on s'extasie devant les chiffres, qu'ils soient hauts, qu'ils soient bas d'ailleurs, mais finalement on s'aperçoit sur les 15 dernières années qu'ils ont beau avoir été très hauts, ils n'ont pas réduit, alors vous dites dans votre livre qu'ils ont réduit la pauvreté, en fait ils l'ont réduit en part de la population, mais en nombre de pauvres il y en a plus qu'avant, donc c'est une croissance globalement sans emploi par rapport à d'autres zones du monde, et il y a des gens comme Serge Mikhailov par exemple dans Afghanistan qui disent, voilà dans le Sahel, voilà on va dans le mur parce que cette croissance elle crée pas d'emploi et on va finir avec le terrorisme, avec des migrations massives.
Non, on peut pas dire que cette croissance crée pas d'emplois, ça c'est une plaisanterie. En revanche, elle ne crée
même,
pas.
C'est les gens de la Banque mondiale quand même qui montrent que cette croissance crée moins d'emplois qu'elle.
Elle ne crée pas assez d'emplois. Le sujet que nous connaissons tous, c'est que la croissance démographique, comme vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, est en moyenne de 2,5% sur le continent africain. Donc avec des croissances à 5%, vous avez en fait des gains de pouvoir d'achat net moyen à 2%. Et comme vous avez un élargissement des inégalités également sur le continent, cette croissance, effectivement, ne profite pas à tout le monde. Et c'est absolument exact que cette croissance doit s'accélérer, si on veut. Et tout le propos que nous tenons avec Jérémy dans ce livre sur ce renforcement de l'appui et l'accélération du développement de cette révolution entrepreneuriale est lié à ce besoin d'accélérer la croissance et d'enrichir cette croissance en emploi. Mais Il ne faut pas non plus minimiser le chemin qui a été parcouru, parce que sinon, ça voudrait dire que si on ne croyait pas que les 5-6% de croissance africaine jusqu'à présent n'ont pas créé d'emplois, n'ont pas créé de revenus, etc., alors à quoi bon même faire de la croissance, hein, si même ce qu'on a fait qui est insuffisant n'a aucun impact. Non, l'accélération est quelque chose d'absolument fondamental. C'est particulièrement vrai, et Serge Mikhaïlov a raison de le dire, dans les pays sahéliens, qui ont été des bons performeurs hein, de croissance économique, mais pas parce qu'ils n'ont pas été des bons performeurs de croissance économique, mais que pour absorber 2,5 à 3% de croissance par an, il faut faire encore mieux que 6.
2,5 de croissance démographique
par an. Il faut faire encore mieux que 6 ou 7.
Alors, il y a un phénomène qui est un facteur qui est évoqué pas mal en ce moment. C'est le facteur monétaire. Le franc CFA, la liaison entre le franc CFA, l'euro et les autres monnaies internationales. Carlos Lopez, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui est aussi secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, que vous connaissez, j'imagine, vient de déclarer que le franc CFA était un mécanisme désuet. Il réclame une discussion sur la zone franc. C'est la première fois qu'un responsable aussi en vue fait ce genre de déclaration. Alors vous le franc CFA, vous travaillez avec tous les jours, et puis dans vos fonctions antérieures, en 1995, quand vous étiez au cabinet du ministre de la Coopération, vous avez été associé de très près, vous avez été un des architectes de la dévaluation du franc CFA, donc en 95. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Carlos Lopez? Est-ce que le franc CFA est désuet?
Non, et je vais vous dire pourquoi, parce que effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que j'ai fait partie des équipes qui ont conçu et mis en place cette dévaluation qui a été immensément critiquée. Hein. Il faut se rappeler qu'à l'époque, tout le monde était contre et qu'il y avait une vague d'opposition africaine très importante et que toute cette intelligentsia africaine qui dit qu'il faut bouger le franc CFA, à l'époque, était rigoureusement opposée au fait que cette dévaluation ait lieu parce que c'était antisocial, etc. Mais et à l'époque, je pensais que, suite à cette dévaluation, le régime de change changerait relativement rapidement. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a pas changé ce régime de change.
Qu'est-ce que vous appelez le régime de change ?
Eh bien, la liaison, la fixité de la parité ou la nature de l'ancrage, on va dire pour prendre un terme un peu plus vague, hein, la nature de l'ancrage à l'époque au franc français, maintenant à l'euro, je pensais que ça bougerait plus rapidement. Et en fait, il n'a pas bougé depuis 1995. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des raisons. Quand quelque chose ne bouge pas pendant très longtemps, c'est que c'est plus stable qu'on pourrait le penser.
Ce que vous voulez dire, c'est que la parité n'a pas bougé, c'est ça ?
Non, oui, le mécanisme, le système n'a pas bougé. Alors en fait,
attendez, le raisonnement, c'est de dire ça n'a pas bougé, donc c'est que ça prouve une certaine qualité ou que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que c'est pas juste parce que les gens qui ont les manettes, en l'occurrence, refusent totalement de débattre du sujet et d'envisager une évolution ?
Alors, je crois que pour ce que je peux comprendre de la position de la France et des intérêts de la France, je crois qu'il n'y a aucun intérêt particulier à ce que la France, aujourd'hui, continue à soutenir le franc CFA.
Si, pour les investisseurs français.
Non, écoutez,
vous avez quand même la fixité, donc aucun risque de change, et ensuite vous pouvez rapatrier librement vos profits.
Oui,
donc il y a un véritable intérêt pour la France de maintenir ce
risque. Oui,
il y a les réserves dans la caisse de la Banque de France.
Les réserves.
Les réserves, c'est franchement pas quelque chose qui joue vraiment en faveur de la Banque de France sur moyen terme, ou sur du trésor français, mais la parité fixe, encore une fois, elle est avec l'euro, donc c'est tous les Européens, pas simplement les Français, qui sont intéressés. Et quant au dynamisme des entreprises françaises, il est aussi très 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 fort sur l'Afrique orientale, l'Afrique de l'Ouest anglophone, etc. Encore une fois, pour travailler avec Danone, pour prendre que cet exemple, quand on voit les investissements qu'a fait Danone ces derniers temps, ils sont d'abord dans cette Afrique anglophone. Non, moi je crois que c'est un débat qui est d'abord politique. Hein. En fait, il y a deux dimensions dans ce débat. Il est normal, légitime que aujourd'hui un partenaire tiers, en l'occurrence la France, joue un rôle dans la gouvernance d'un mécanisme monétaire qui est partagé entre des États souverains ailleurs dans le monde. Voilà, ça c'est une question politique. Et je dirais, il n'y a que les Africains qui peuvent répondre à ça. Alors, toutes les questions, si, mais c'est vraiment leur business. Et je crois que nous, Français, en tout cas moi particulièrement Français, je refuse presque de m'exprimer là-dessus. C'est à eux de le savoir. Ensuite, il y a un deuxième sujet, qui est un sujet d'économiste. Est-ce que ce régime de change, il est favorable ou non à l'économie africaine et l'économie des pays en question ?
Et vous en pensez quoi ?
Eh bien, moi, je pense qu'il est beaucoup plus favorable qu'on le dit. En tout cas, il n'est pas défavorable.
Et pourtant, il y a des gens comme Kakonubukpo qui vient de signer un bouquin collectif sur ce sujet-là, qui disent que le franc CFA, c'est une monnaie trop forte, déconnectée des réalités africaines et que les économies africaines en souffrent.
Eh bien, bon, je n'ai pas encore lu son ouvrage, je vais le lire avec beaucoup d'intérêt, puisqu'il sort ces prochains jours. Mais je crois que sur longue distance, parce que ce sont des phénomènes qu'il faut apprécier sur 20 ans, sur 30 ans, la performance de l'économie zone franc, elle n'est pas différente de celle
ils
de...
Ils disent
de
le contraire. Hein. Dans ce livre, ils disent très clairement que la performance des pays de la zone franc CFA est inférieure, donc ils font ça sur 30 ou 40 ans, est inférieure, et pour eux, c'est la cause principale, c'est le franc CFA.
Non, mais parce qu'on ne peut pas isoler un seul facteur. Par exemple, si vous prenez la dernière décennie, qui compte beaucoup... dans l'appréciation de la performance de la zone franc. Le cas ivoirien qui compte pour 40% de l'ensemble, pardon, 50% de l'ensemble de la zone Afrique de l'Ouest explique à lui tout seul tout le différentiel de croissance entre l'Afrique, entre le reste de l'Afrique et ce jour. En plus, il faut comparer les pays qui sont comparables. Vous n'allez pas comparer des économies de pays, encore une fois, enclavées dans la dernière décennie, enclavées et sans matières premières, avec le dynamisme de l'économie angolaise et nigériane et un producteur de pétrole. Bon. Donc je crois que franchement la cause est à la fois complexe et extrêmement discutable.
Eh bien Jean-Michel Severino, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. On pourrait en faire quasiment une deuxième avec vous, avec ce livre, autour de ce livre « Entreprenante Afrique » aux éditions Odile Jacob que vous co-signez avec Jérémy Hagedenberg. Je rappelle aussi, puisque nous en avons parlé brièvement à la fin de cette émission, donc un livre de Kakonubukpo et de quelques autres co-auteurs qui s'appelle « Sortir de la servitude monétaire » et c'est aux éditions La Dispute. Guillaume Munier était à la réalisation de cette émission que vous pouvez réécouter ou revoir sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.